Actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2016. Clotilde Seille au micro de Canal M qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette émission Les Paractualités avec aujourd'hui en titre « Quoi faire avec les héritiers vulnérables ?» Et puis, il devient sourd après la prise d'un antibiotique. Aussi, la commission scolaire de Sorel-Tracy intègre de plus en plus ses élèves handicapés. Et d'autres sujets ici, sujets canadiens, deux des plus importants organismes qui luttent contre le cancer veulent fusionner. Et puis novembre est le mois de la sensibilisation à la maladie de Crohn. Également aujourd'hui, deux entrevues, une avec Milena Bouchiak, metteur en scène de la pièce Traversée, et aussi une autre entrevue avec Mathieu Francoeur, agent de mobilisation au mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, autrement dit le FAS. Il sera question notamment de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Alors que faire avec les héritiers vulnérables? Ils sont handicapés, schizophrènes ou fragilisés par la vieillesse. Vous pouvez continuer de les aider, même de l'au-delà. Avec le vieillissement de la population, peut-on lire dans l'actualité, de plus en plus de Québécois devront s'occuper d'une personne à charge, voire de plusieurs. Comme ce fut le cas pour Paul, notamment. En 20 ans, le nombre d'adultes âgés de moins de 65 ans percevant une rente d'invalidité de retraite Québec est passé de 43 000 à 71 000. Et ce n'est qu'une partie du tableau. Au Canada, 887 000 personnes se prévalent du crédit d'impôt pour personnes handicapées, dont 126 000 Québécois, précise Maître Laurent Fréchette, notaire au cabinet Hogg Fortier Fréchette à Montréal. Selon le spécialiste du soutien aux handicapés, il existe de nombreuses façons d'aider un proche dont on a la charge. La plupart de ces manières étant moins risquées que celles choisies par le fils cadet de Léonidas. Sa solution avait le mérite d'être simple, mais tout dépendait de sa bonne santé physique et financière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les frères, ils sont plusieurs frères, dont deux qui sont en situation de handicap, et les frères aînés, voyant le père vieillissant, on dit au père, et pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas une partie de la maison tout de suite à nos jeunes frères handicapés? Et c'est comme ça qu'ils ont pu s'en sortir lorsque le papa est décédé. Bien des gens, nous dit-on encore dans cet article-là, croient à tort qu'une personne qui reçoit des prestations d'aide sociale ne peut recevoir de legs sans s'exposer à perdre ses prestations. En fait, tout assisté social peut recevoir jusqu'à 208 000 $ d'un héritage ou d'une assurance sans que cela affecte son droit à des prestations, dit Guillaume Parent, conseiller financier et président de Finhandicap, un cabinet conseil spécialisé dans les services aux personnes handicapées. Alors, ce qu'il faut, dit Laurent Fréchette, qui, lui, s'occupe... j'ai un petit peu perdu ma page et je m'en excuse. Et peu importe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien examiner chaque cas. Apparemment, par exemple, on a déjà conseillé à un couple de ne rien faire pour son enfant. Il s'agit de deux employés d'Hydro-Québec dont le régime de retraite permet déjà de transférer la rente de conjoint survivant à un enfant handicapé. L'enfant touchera donc 60 000 $ par an, un montant indexé à vie. Financièrement, c'est évidemment très, très bon. Alors, informez-vous parce que chaque cas peut être très différent. Une histoire triste maintenant qui nous a été révélée dans le journal de Montréal, l'histoire d'un petit garçon et d'une famille qui poursuit l'hôpital Saint-François d'Assise pour $1 million. La famille soutient qu'un antibiotique prescrit par un médecin a provoqué la surdité de leur fils quelques heures après sa naissance. Le papa en question a vu une infirmière quelques heures après la naissance du bébé lui donner un bain et plonger carrément sa tête dans l'eau. Il en a été surpris. Il pensait qu'elle savait ce qu'elle faisait. Le lendemain, quelques heures après, le bébé s'est tout de suite senti mal. On voyait bien qu'il souffrait d'un inconfort. Ils lui ont retiré de l'eau des poumons. Et il a, comme on a pensé qu'il pourrait faire une infection, on lui a donné un antibiotique et l'antibiotique l'a rendu complètement sourd. Daniel Thirion est un expert en maladies infectieuses, pharmacien et professeur titulaire de Clinix au Centre universitaire de santé McGill et faculté de pharmacie. À l'Université de Montréal, il soutient que cet antibiotique, la gentamicine, peut rendre sourd, effectivement, si elle est mal administrée. Il y a plusieurs études qui ont été faites chez les adultes et les enfants. Le taux de toxicité chez les nouveau-nés est de 2,3% des cas. Chez les adultes, c'est plus fréquent, c'est de l'ordre à 2,5 à 3,5. C'est de l'autotoxicité. On est capable de mesurer une perte de la fonction auditive. Si on la détecte assez tôt et qu'on ajuste les doses, c'est réversible. Mais pour l'autotoxicité irréversible, les taux sont beaucoup plus faibles. Il y a des cas rares, environ 1 sur 1000, et malheureusement, le petit Liandre est maintenant sourd à vie et ses parents réclament, je vous le disais, 1 million de dollars. La compagnie Voyageurs Immobiles présente Traversée, un spectacle en français et en langue des signes québécoise. Voilà pourquoi, bien sûr, nous nous sommes montrés intéressés par cette production mise en scène par Milena Bouchiak, ou Bouchiak, c'est elle qui va me dire comment est-ce qu'on prononce son nom. Bonjour Milena.
Oui, bonjour, c'est Bouchiak.
Bouchiak, d'accord. Oui, vous êtes d'origine polonaise, hein?
C'est ça, oui.
C'est ça, exactement. Non, c'est pour ça que j'avais un petit peu le doute. Alors, cette pièce, bon, Traversée, d'abord, parlez-nous un petit peu de la pièce. Qu'est-ce que ça raconte un peu, cette pièce-là?
Donc, la pièce raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nour et qui vit avec sa nourrice, Yumna, qui est sourde. La pièce va raconter d'abord la vie de Yumna et de Nour ensemble dans leur petite maison. Et ensuite, Nour doit quitter Yumna et aller dans un nouveau pays, un pays où des filles peuvent aller à l'école échevelées si elles le veulent. Et donc, elle fait la grande traversée à travers plusieurs frontières pour arriver dans ce nouveau pays et chercher sa vraie mère. Et une fois arrivée dans le nouveau pays, Nour doit reconstruire sa vie et se retrouver une nouvelle identité. Voilà.
Donc, on parle là comme d'identité, comme vous venez de le dire, mais également d'exil.
Hein,
et puis, je lisais aussi, il est question beaucoup d'un parcours intérieur. Hein. Ce n'est pas juste un exil physique.
Non, c'est ça. La pièce parle beaucoup de la différence. Comment c'est vivre ça. Quand on est différent?
Exactement. Et alors, comment vous avez fait? Parce que, comme je le disais au début, la spécificité de la pièce, c'est d'être présentée en français, mais également en langage des signes. Comment vous avez marié tout cela?
Le texte est écrit pour deux personnages, un qui est entendant et l'autre qui est sourd. Donc, moi, j'ai voulu rendre hommage à cet aspect-là du texte qui est écrit par Estelle Savasta, qui est une auteure française. Et je trouvais une grande richesse d'avoir ces deux personnages-là sur scène. Alors, j'ai voulu travailler avec une comédienne sourde pour rendre la partie en langue des signes québécoise vraiment beaucoup plus authentique et vivante.
Mais donc, il n'y a personne en dehors de ces deux comédiennes-là qui... Parce que moi, ce que j'avais imaginé, c'était qu'une personne éventuellement décrivait absolument tout en langage, je veux dire tous les dialogues, en langage des signes, mais c'est pas ça.
Non, la proposition artistique, c'est vraiment que chacun des personnages raconte l'histoire de son propre point de vue. Donc, les deux racontent en même temps, fois un peu en décalage. Et une fois Nour part de sa maison, le personnage de Yumna revient en vidéo et en rêve pour raconter la suite de l'histoire en langue des signes. Donc, pour moi, c'était vraiment très important qu'il n'y ait pas justement une troisième personne, un interprète sur scène et que la langue des signes fasse partie intégrante du spectacle. Donc, le spectacle ne peut pas exister sans la langue des signes, pour moi.
Et il ne peut pas exister aussi sans musique? Et vous avez demandé à une compositrice qu'on connaît bien ici dans le domaine de la musique contemporaine, la musique actuelle, Diane Labrosse?
Tout à fait, oui, qui a composé l'univers sonore qui est très intéressant également, oui. Et on a fait la traduction, on a déjà présenté la pièce l'année passée et on avait des discussions après la pièce avec plusieurs personnes sourdes qui sont venues nous voir. et on s'est rendu compte que la pièce n'était pas tout à fait accessible pour eux parce qu'elle n'est pas bilingue. Donc, les deux personnages racontent la même histoire, chacun de son point de vue, mais on voulait rendre la pièce encore plus accessible. Donc, cette fois-ci, on a traduit de nouveaux moments en langue des signes. Et la comédienne qui joue Nour, donc Florence Blenbaye, a appris des moments en LSQ aussi pour vraiment rendre la pièce beaucoup plus accessible.
Bon, bah, écoutez, je vous remercie pour la précision parce que je vous ai terriblement mal posé ma question un petit peu plus tôt et c'était exactement ce que je souhaitais vous entendre dire. Alors, merci beaucoup. On en est bien content pour toutes les personnes qui voudraient se présenter et assister à cette pièce. Je le rappelle, ça s'appelle Traversée. C'est présenté alors du 9 au 20 novembre 2016 à 20h. Le dimanche, c'est à 15h. C'est ce qu'on appelle le MAI, le Montréal Art Intellectuel?
Art interculturel.
Pardon, intellectuel, interculturel. Quel lapsus quand même. Alors, je rappelle que c'est un texte d'Estelle Savasta. La traduction en langue des signes québécoise, on la doit à Marie-Hélène Hamel. Et puis, vous êtes Milena Bougiac. J'espère que cette fois-ci, je l'ai bien dit. L'exil, vous connaissez ça, vous d'ailleurs, un peu, hein?
Oui, un peu différemment du personnage de la pièce, parce que moi, je suis immigrante, donc c'est pas un exil forcé.
Non, c'est ça.
C'est sûr que toutes les personnes en situation d'exil vivent certaines choses qui se ressemblent, mm-hmm. mais c'est, je ne suis pas réfugiée.
D'accord. Et puis, dites donc, vous êtes pilote d'avion aussi, juste comme ça?
Oui, juste comme ça. Oui, j'ai eu ma licence de pilote privé par les cadets de l'air.
Bon, bah écoutez, bravo. Bravo Milena Bouchiac, donc metteur en scène de cette pièce Traversée, je vous le rappelle, Montréal Art Interculturel. C'est situé où ça, le MAI à Montréal?
C'est au 3680 rue Jeanne-Mance, c'est juste derrière la Place des Arts.
Ah d'accord, juste derrière la Place des Arts. Alors du 9 au 20 novembre 2016 à 20h et le dimanche à 15h. Merci beaucoup Milena.
Merci à vous.
Et je vais aller voir la pièce.
Oui,
c'est
merci
déjà réservé.
Beaucoup.
Ben, merci à vous de m'y avoir invité. Merci. Au revoir et
au
bonne
plaisir.
Journée. Au revoir. Des actualités régionales maintenant, et cette nouvelle assez incroyable mais vraie, des fonctionnaires québécois ont fait preuve d'un zèle excessif en récupérant la petite récompense que touchait une jeune trisomique dans son centre de jour. Et figurez-vous qu'il a fallu remonter jusqu'au ministre pour contester cette décision. Alors, l'histoire. Trois fois par semaine, Myriam Garcia Cournoyer, elle a 26 ans, passe la journée au centre artisanal pour la déficience de l'Outaouais, qui s'appelle le Cadeau, ce qui permet de donner un répit à ses parents. Et ce qu'elle fait avec ses camarades, cette jeune trisomique, c'est qu'elle peint des Pères Noël, qui vont bien sûr être utiles pendant les fêtes. Et pour encourager Myriam, le Cadeau lui verse un salaire symbolique qui est $1 par jour de présence. Alors ça tombe bien d'ailleurs parce qu'il y a une petite cantine, il y a des petites douceurs. Alors avec son dollar, au Cadeau, Myriam apprend à exercer son jugement et son pouvoir d'achat avec discernement. Mais, au ministère québécois du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le discernement et la valeur symbolique du salaire de Myriam ont échappé aux fonctionnaires responsables de son dossier. Soucieux d'appliquer la loi à la lettre, ils ont soustrait la somme, soit $3 par semaine, pour 3 jours, de sa prestation de solidarité sociale. Ironiquement, la loi donne aux prestataires le droit de travailler et de gagner jusqu'à $100 par mois sans que leur prestation soit coupée. Mais le dollar de Myriam ne correspond pas à la définition légale d'un salaire. Alors écoutez, tout le monde s'y est mis. Le directeur général du Cadeau lui-même, un ancien politicien, a appelé son député. Le papa de Myriam a fait la même chose. D'ailleurs, le papa de Myriam qui dit que lorsque les fonctionnaires ont réclamé l'argent aux parents de cette jeune femme, il ne savait pas s'il fallait en rire ou en pleurer. Il dit, écoutez, ce n'est pas une question de montant, c'est une question que c'est complètement aberrant. Eh bien, il a fallu remonter jusqu'au ministre. Et c'est François Blais lui-même qui a dit, bon, écoutez, on va arrêter ça tout de suite. Et la somme qui a été reprise aux parents leur sera à nouveau remboursée. Voilà pour cette histoire. La commission scolaire de Sorel-Tracy intègre de plus en plus ses élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, les HDAA, dans des classes régulières dans les écoles secondaires. Le nombre a augmenté de près de 20 points de pourcentage en 3 ans. C'est une tendance. Dans la mesure du possible, on met un élève HDAA dans une classe régulière, explique le responsable aux communications de la commission scolaire, François Houde. Les élèves regroupent, entre autres, les élèves ayant une déficience intellectuelle, langagière, motrice, les troubles envahissants du développement, les retards d'apprentissage et les troubles du comportement. La CS a pratiquement atteint la moyenne québécoise qui se situe à 64,1% en 2015-2016. On doit examiner le dossier de chacun des élèves, précise M. Houde. Quel est le meilleur intérêt? Quelle est la nature des services qui devront être appliqués? Si l'option de l'intégrer dans une classe ordinaire présente plus d'avantages, on optera pour cela. Ce n'est pas un principe absolu. Dans les écoles primaires, l'augmentation se fait moins sentir. Le taux de la commission scolaire de Sorel-Tracy est tout de même en dessous de la moyenne provinciale qui se situe à 83,5% en 2015-2016. Engagez-vous pour le communautaire, c'est un slogan dont il est beaucoup question à cette émission, les Paractualités. Un slogan important pour d'importantes mobilisations qui auront lieu les 7, 8 et 9 novembre. Et à ce sujet, je suis très heureuse de m'entretenir avec Mathieu Francoeur, agent de mobilisation au FAS, autrement dit au Mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services. Bonjour Monsieur Francoeur.
Bonjour Madame Seille.
Alors, qui est à l'origine de cette vaste campagne nationale dont on parle beaucoup?
L'idée était présente depuis quelques années. L'an dernier, le milieu communautaire s'était mobilisé pour 2 jours de grève fermeture pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le financement du milieu communautaire aussi, la fin des coupures et la fin de l'austérité. Mm-hmm. Et cette année, les grands mouvements nationaux communautaires québécois se sont réunis pour dire on fait une vraie campagne unitaire où tout le milieu va être ensemble pour demander les mêmes choses. Donc, on parle ici de plus de 4000 organismes d'action communautaire autonome au Québec dans plein de secteurs comme la santé et services sociaux, la défense collective des droits, le mouvement des femmes, etc., etc., pour faire des actions communes pendant 3 jours cette année au lieu de 2.
Okay.
Donc, les 7, 8, 9 novembre la semaine prochaine.
Dont nous allons reparler pendant cette entrevue. Juste avant, qu'est-ce que c'est exactement l'action communautaire autonome?
L'action communautaire autonome, ça regroupe à peu près tous les groupes sans but lucratif issus de la communauté qui font du travail soit de défense des droits, d'éducation populaire, qui font aussi du service pour les communautés et qui sont gérés de façon démocratique par ses membres en général et qui travaillent pour défendre les droits des personnes, pour donner une voix aux personnes qui en ont souvent moins dans l'espace public et pour combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. En gros, c'est ça.
Alors, est-ce que le milieu se mobilise? Est-ce que vous sentez que ça grouille, que ça bouge, est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions?
Oui, comme l'année passée, ça avait assez bien marché. Cette année, pour l'ensemble du Québec, sur les 4000 groupes, il y en a plus de 1000 pour l'instant qui ferment les 2 jours. D'autres qui vont fermer, par exemple, 3 jours ou 2 jours, d'autres une journée. Mais il y a des manifestations le 9 novembre dans l'ensemble du Québec, dans toutes les grandes villes du Québec, les villes régionales. Et il y a beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup, beaucoup de discussions et je dirais de fébrilité autour des demandes qu'on a et évidemment des actions qui s'en viennent aussi.
Alors, le 6 novembre, c'est le lancement national de cette campagne par le comité de coordination de la campagne. On s'attend, ce serait difficile, remarquer de vous demander à quoi on s'attend parce que ça va être différent, j'imagine, dans chaque région.
Le 6 novembre, c'est le lancement médiatique, donc
d'accord.
Vraiment pour les médias.
D'accord.
Ça se passe à Montréal, surtout pour l'ensemble du Québec. Le 7, c'est la journée de visite ou d'action au bureau des députés dans toutes les régions du Québec, avec une demande d'engagement pour les demandes du communautaire.
Oui, parce que c'est ça, ils vont être invités à signer des lettres d'engagement. Hein. C'est
exactement.
Bien ça? D'accord.
De tous les partis politiques à signer une lettre pour appuyer nos demandes, qui ont souvent été appuyées par le passé par différents partis, par différentes instances. Il y avait déjà eu des augmentations, parce qu'on parle ici d'augmentation de budget pour les groupes, mais aussi de réinvestissement dans les programmes sociaux et les services publics. Et donc, on va les solliciter lundi. Mais les actions en tant que telles, plus du milieu communautaire, ça se passe le 8 avec, entre autres, beaucoup de tractage à la population pour mieux faire connaître le milieu communautaire. Différentes actions qui se passent, dont une à Montréal, une tournée en autobus de piquetage devant différents lieux symboliques reliés au milieu politique, au milieu économique. D'ailleurs, je dis en parenthèse, en passant, qu'il y a, pour cette tournée en autobus-là, il y a un autobus adapté, d'ailleurs. Cette année, on voulait vraiment inclure les personnes à mobilité réduite. Donc, si les personnes en fauteuil roulant, par exemple, veulent participer à la manifestation du 8 novembre au matin, il y a un autobus adapté pour les faire participer avec nous.
Eh bien, nous vous en remercions.
Oui, bien, on remercie tout le monde, je pense.
Exactement.
C'est une avancée, oui.
Exactement. Et puis alors donc, ces deux journées-là, le 8 et le 9, vous espérez bien que ce sera marqué par des grèves, par des fermetures, par des interruptions d'activité, hein, tout ça. Hein.
Oui, et des actions de visibilité, évidemment, des actions un peu d'éclat. Et le 9 novembre, comme je disais, partout au Québec, dans l'après-midi, c'est des grandes manifestations. Où on invite la population aussi. Bon, c'est dans le jour, évidemment. Les gens travaillent pour la plupart, mais si les gens peuvent venir appuyer le milieu communautaire, parce que le milieu communautaire donne des services, appuie des gens, fait la défense des droits d'un paquet de personnes. Souvent, on ne le soupçonne pas, mais c'est dans plein de secteurs différents. Et fait avancer aussi les droits des gens et fait aussi que les services publics sociaux sont aussi complétés par le milieu communautaire. Donc, avec l'austérité depuis quelques années, les organismes communautaires débordent, évidemment, parce que les gens ont de plus en plus de besoins qui ne sont pas répondus dans le secteur public, par exemple.
Exactement.
Donc, on va au privé, on va voir le communautaire, mais il y a même des listes d'attente maintenant dans les groupes communautaires, ce qui est assez particulier. C'est pas fait à la base pour gérer des services comme ça. Donc, c'est vraiment une importance des groupes dans le filet social et dans la société démocratique québécoise. Et on a des demandes chiffrées, évidemment, de quelques millions.
C'est ça, parce que de quoi est-ce qu'on peut mesurer quels seraient les besoins financiers à combler dans le milieu communautaire?
Oui, ça a été chiffré, évidemment, par les regroupements nationaux, puis la campagne Engagez-vous, la campagne on parle de par année si on voulait vraiment répondre à l'ensemble des besoins des groupes et aussi tous les groupes qui ne sont pas financés, qui attendent depuis des années, qui vont soit vers les fondations, soit vers du financement privé. Oui. On parle de 475 millions par année supplémentaires, ce qui est un chiffre assez impressionnant.
Oui.
Actuellement, on a un peu plus que ça pour l'ensemble du milieu. Mais c'est sûr que quand on parle que c'est 0,7% du budget québécois,
c'est
beaucoup moins que les grandes compagnies qui reçoivent.
Honnêtement, je pensais que vous alliez me donner un montant beaucoup plus important que ça. Parce que quand on parle de budget pour n'importe quoi maintenant, on parle de presque un milliard à chaque fois. Donc, on se dit que quand on est en dessous de 500 millions, c'est pas si pire.
C'est vrai. Puis on parle de 4000 groupes existants et d'au moins 500 plus qui aimeraient exister, qui ont des besoins dans les communautés.
Et que c'est essentiel. C'est essentiel.
Exactement.
Parce que c'est pas le gouvernement qui peut répondre à tout, mais du moins, il pourrait peut-être financer là où il peut pas répondre.
Exactement. Surtout qu'avec les coupures, les compressions, il délaisse beaucoup dans la cour du communautaire, beaucoup en santé, services sociaux, entre autres, et en éducation. Donc, c'est sûr que les groupes qui sont souvent pas indexés depuis des années en plus, doivent couper des postes, passer la majorité de leur temps à trouver du financement et non pas faire leur travail. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie que le communautaire veut avoir plus de financement, mais on fait vraiment le lien, c'est pas juste la rhétorique, là, avec les coupures, l'austérité, puis les services publics qui se dégradent actuellement. Ouais.
Et c'est important de le dire, et ça a été dit sur les ondes de Canal M par Mathieu Francoeur. Je rappelle que vous êtes du mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, autrement dit le FAS. Alors, engagez-vous pour le communautaire les 7, 8 et 9 novembre, c'est important. Merci Monsieur Francoeur.
Merci Madame Say, à bientôt.
À bientôt. Par actualité nationale, deux des plus importants organismes qui luttent contre le cancer veulent fusionner. La Société canadienne du cancer et la Fondation canadienne du cancer du sein ont l'intention de se regrouper en vue d'avoir un impact plus important sur la recherche et les programmes de soutien. Les deux organismes se réuniront sous la bannière unique de la Société canadienne du cancer. Le mandat et l'esprit qui animent la Fondation canadienne du cancer du sein, incluant ses principaux programmes et activités, seraient néanmoins préservés. La Société canadienne du cancer annonce du même coup la nomination de Lynn Hodson au poste de présidente et chef de la direction. Elle dirigera les deux organismes tout au long du processus de fusion. Novembre est le mois de la sensibilisation à la maladie de Crohn et à la colite. Au Canada, un pays où le taux de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse est un des plus élevés du monde. Il s'agit de deux maladies chroniques et invalidantes causées par une anomalie de la réponse du système immunitaire. Les Canadiens atteints de la maladie de Crohn ou de la colite font d'énormes progrès pour mettre fin à la douleur et à l'isolement, mais il reste beaucoup à faire. Pendant le mois de novembre, Crohn et Colite Canada met l'accent sur deux thèmes centraux, l'accès aux médicaments et l'accès aux toilettes. Bien que nous ayons réalisé de grandes avancées dans la sensibilisation du public à la maladie de Crohn et à la colite, les quelques 250 000 Canadiens vivant avec ces maladies chroniques invalidantes se heurtent encore à de graves difficultés. Durant le mois de la sensibilisation à la maladie de Crohn et à la colite, nous invitons les Canadiens à se prononcer contre les substitutions forcées et à revendiquer l'accès aux toilettes comme un droit fondamental de la personne, affirme Mina Mawani, directrice générale de Crohn et Colite Canada. Crohn et Colite Canada qui accueille d'ailleurs favorablement les nouveaux traitements sûrs, efficaces et économiques. Le but ultime de tout traitement étant toujours la stabilité qui est atteinte par une rémission de la maladie. Les Canadiens touchés par la maladie de Crohn et la colite sont atteints d'une maladie invisible et aux prises avec la douleur et l'isolement. Sans oublier les occasions manquées, ces maladies chroniques peuvent les obliger à aller aux toilettes jusqu'à 20 fois par jour. Pendant le mois de novembre, les responsables de Crohn et Colite Canada rencontreront d'importants représentants du gouvernement fédéral pour défendre l'inclusion de l'accès aux toilettes dans la nouvelle loi sur les invalidités. Les Canadiens pourront faire montre de leur appui à l'égard de cette question importante à l'occasion d'une campagne de sensibilisation en ligne qui sera lancée dans le courant du mois. Information sur le site de canalm.vusezvoix.com. C'est un YouTuber, il veut vous apprendre à parler. Il veut vous apprendre à parler aux personnes sourdes. On est sourd, ce n'est pas la peine de crier. Il s'appelle Vivien Laplane, le souffleur de mots, comme il se surnomme sur YouTube. Ne manque pas d'humour. Ce jeune homme, sourd depuis la naissance, publie une à deux vidéos par mois depuis le 15 juillet. Son phrasé est clair et son intention captivante. Il veut expliquer le monde des sourds à ceux qui entendent. Et dans la bande-annonce présentant sa chaîne YouTube, Vivien détaille son périmètre d'études. Préjugés, avantages, oui, désavantages. Inconvénients du handicap, éducation spéciale, poésie, coup de gueule, pour donner du sens à ce que nous vivons. Alors comment s'adresse-t-on à un sourd pour qu'il comprenne ce que dit un entendant? Le YouTuber introduit les séquences de ses vidéos en singeant les interrogations de ses proches. « Mais Vivien, comment veux-tu qu'on te parle ?» Il répond « Normalement, on parle face à face avec une bonne lumière, pas en contre-jour, dans un environnement calme, ne pas parler avec les mains devant la bouche, en ne me tournant pas le dos, normalement, en ne criant pas, ça sert à rien, on est sourd, c'est pas la peine de crier. Et puis sans articuler exagérément, sinon on ne comprend plus rien. Surtout que si on lit sur les lèvres, ce n'est pas pratique. » Alors voilà ce qui conclut l'émission Les Paractualités du jour sur les ondes de Canal M. Clotilde Saye au micro qui remercie son équipe et qui vous remercie d'être là fidèlement à 11h30. Je vous souhaite une bonne journée. Demain, je cède la place à Daniel Rioux et je vous retrouve lundi prochain, 11h30. Bonne journée.